Sous les pressions américaines, l'Allemagne ne se plie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes. Sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut pas être mis en service, a déclaré Olaf Scholz lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre irlandais Michael Martin, ajoutant que le dossier allait être réexaminé par le gouvernement allemand. Nous ne pourrons pas accepter la reconnaissance des provinces pro-russes, c'est pourquoi il est si important de réagir maintenant et rapidement, a-t-il fait valoir. Tout juste achevé en novembre, mais jamais encore mis en service, Nord Stream 2 et depuis le début du projet est au cœur de batailles géopolitiques et économique. Nord Stream 2 relie les deux pays via un tube de 1230 km sous la mer Baltique d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, sur le même parcours que son jumeau Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012. Contournant l'Ukraine, le tracé va augmenter les possibilités de livraison de gaz russe à l'Europe. Le pétrole frôle les 100 $ suite aux tensions en Ukraine. Les cours du pétrole s'envolaient mardi, embrasés par la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens. Le prix du Brent frôlant la barre symbolique des 100 $ le baril. Vers 11h10 à Paris, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 3,77%, passant à 98,97 $, après avoir atteint 99,50 $ le baril quelques minutes plus tôt. À New York, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en mars grimpait de 4,86% à 95,50 $. Les deux références de l'or noir enregistrent ainsi de nouveaux records depuis 7 ans. L'Ukraine aimerait avoir l'arme nucléaire, a laissé entendre son président. Des propos peu crédibles, mais une stratégie de pression qui augmente considérablement le niveau des tensions en Europe, estiment plusieurs experts au micro de Sputnik. Le président ukrainien Zelensky a ouvertement évoqué une possible acquisition de l'arme nucléaire par Kiev. Le 19 février, le chef d'État a déclaré qu'il voulait convoquer une rencontre des pays signataires du mémorandum de Budapest de 1994. Par cet accord, l'Ukraine avait renoncé à son arsenal nucléaire hérité de l'URSS en échange des garanties de sécurité de Moscou, Londres et Washington. Si cette réunion ne pouvait se tenir, Kiev serait ainsi en droit de considérer que le mémorandum ne fonctionne pas, a affirmé le dirigeant ukrainien. Une position qui amènerait mécaniquement à la sortie du traité de non-prolifération TNP et à la possibilité pour Kiev d'acquérir l'arme nucléaire. Sur le papier, la sortie est d'autant plus aisée que le mémorandum en question est non contraignant. Aucune condition ou sanction n'a été prévue pour irrespect de l'un ou plusieurs des points du document. Le cinquième et dernier article précise seulement que les États signataires s'engagent à se consulter au cas où surviendrait une question concernant l'un ou l'autre des engagements précités. Les propos de Zelensky ne feront qu'aggraver les tensions. Alors que les tensions entre Kiev et Moscou s'intensifient, Zelensky estime donc avoir besoin du feu nucléaire. Pour autant, le géopolitologue Ronald Lombardi estime que l'hypothèse d'une Ukraine nucléaire est peu crédible. C'est du bluff, affirme-t-il. Ses propos s'inscrivent dans des logiques de pression sur la crise en cours. Je ne pense pas que cela soit fondé. Pour moi, ce n'est rien de plus qu'un coup de pression. Il sait très bien qu'il y aura des répercussions drastiques, aussi bien de la part de ses alliés que de ses adversaires, précise le chercheur. Même son de cloche du côté de Volkan Özdemir, politologue turc et responsable de la plateforme Asie-Turquie-Europe. La déclaration de Zelensky ne fera qu'aggraver les tensions, explique-t-il à Sputnik. Selon lui, cela fait partie de provocations et de la guerre d'information que Kiev essaye de mener, non sans l'aval de Washington. Cependant, Moscou prend ses menaces au sérieux. Nous savons également que des déclarations ont déjà été faites selon lesquelles l'Ukraine a l'intention de développer ses propres armes nucléaires et ce n'est pas un vain bavardage, a prévenu Vladimir Poutine dans son adresse à la nation du 21 février. Nous ne pouvons pas laisser ce danger réel sans réaction, a encore indiqué l'hôte du Kremlin. Surtout, je le répète, que les bienfaiteurs occidentaux peuvent aider à l'émergence de telles armes en Ukraine afin de créer une nouvelle menace pour notre pays. Cela ne sécuriserait personne. Aussi, selon le politologue turc, la déclaration de Volodymyr Zelensky sur le mémorandum de Budapest pourrait bien faire partie de la stratégie américaine de provocation et d'escalade. Il est naïf de penser qu'un pays comme l'Ukraine, qui est désormais entièrement sous contrôle occidental, a l'intention de prendre au sol les mesures mentionnées par M. Zelensky, explique-t-il. Question timing, ce n'est clairement pas le moment, observe de son côté Ronaldo Lombardi, avant d'ajouter « cela ne sécuriserait personne ». L'Ukraine est signataire du traité de non-prolifération TNP, rappelle Ronaldo Lombardi. Il est grave d'en sortir. Quelle serait la position des États-Unis qui prônent la non-prolifération quand leur protégé sort du TNP pour s'armer? Tout cela n'est pas réaliste, pointe le chercheur. De surcroît, cette quête de l'arme nucléaire condamnerait l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Or, l'Ukraine s'efforce actuellement de ne pas renoncer à une possible adhésion à l'alliance militaire atlantiste, aux grandes dames de la paix en Europe de l'Est. Une analyste partagée au micro de Sputnik par Vasvi Sel, secrétaire général du Fonds de développement de la Crimée, qui y voit en plus un calcul de politique intérieur du chef d'État ukrainien. Zelensky entraîne son pays vers l'abîme au nom de ses propres intérêts, considère-t-il, qualifiant la déclaration du président ukrainien de purement politicienne. Le chef de l'État ukrainien a perdu pas mal de voix aux élections locales, tandis que le parti de l'ex-président Petro Porochenko a amélioré son résultat. Ainsi, Zelensky a fait cette déclaration uniquement pour satisfaire ses propres ambitions de pouvoir, tacte-t-il. Mais Kiev n'est pas le seul dans la région à avoir un appétit nucléaire. Le 17 février, dans le contexte de cette crise ukrainienne, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que la Biélorussie serait prête, si nécessaire, à accueillir des armes supernucléaires en cas de menace de la part de pays inamicaux. Sous-entendent ici l'Ukraine. Ces armes ne seraient toutefois pas biélorusses, mais russes et seraient déployées dans le cadre d'accords existants entre Minsk et Moscou, a-t-il expliqué. Ainsi, un référendum prévu le 27 février sur la constitution biélorusse pourrait-il revenir sur le statut dénucléarisé du territoire. Une ambition pour le moins explosive en Europe de l'Est. L'État France et les autres pays européens également, en espérant qu'ils en prennent conscience, doivent petit à petit disparaître pour être intégrés dans une Europe des régions à l'image des États-Unis et de l'Allemagne. À la différence que l'autorité supérieure de chacune d'entre elles sera soumise au diktat de l'oligarchie financière. En France, le processus avance en catimini, sans publicité, à coups de lois, décrets et autres arrêtés discrètement promulgués. Mais l'esprit du programme reste présent. Citons en exemple la nouvelle communauté européenne d'Alsace, créée en janvier 2012. Dans quel dessein satisfaire la volonté de création d'une union de régions européenne dépendante d'un pouvoir centralisé à Bruxelles, lui-même soumis aux ordres de la finance anglo-saxonne. Une avancée menée discrètement pour éviter un éveil brutal des nationalismes et un rejet absolu. La disparition de la classe moyenne est programmée par son appauvrissement et une acceptation inconditionnelle de la part des autorités d'une immigration anarchique, volontairement incontrôlée lorsqu'elle n'est pas soutenue par de l'argent public. Souvenons-nous de ces villes et régions qui ont distribué l'argent du contribuable à certaines ONG soi-disant sauveurs de migrants en perdition en Méditerranée, mais qui en réalité vont les accueillir à la limite des eaux territoriales libyennes. Une immigration qui coûte des milliards d'euros aux contribuables, pour quelle véritable raison un grand remplacement? Peut-être, point d'interrogation. Probablement non, mais un grand mélange plutôt. Associé à une gestion centralisée de ces futures entités régionales, comme le montre le pouvoir toujours plus important capté par la Commission européenne inexistante. L'objectif est de canaliser le pouvoir décisionnel vers la caste financière pour lui permettre de dicter plans et programmes pour maximiser ses profits. La démocratie s'efface en faisant perdre au Parlement, dernier bastion de démocratie, son pouvoir de contrôle et de régulation. La dernière preuve en date est la constitution de ERA 3, destinée à gérer les problèmes de santé hors contrôle possible des parlementaires européens. Va-t-on assister à de futures obligations vaccinales décidées unanimement par des fonctionnaires technocrates lors de la prochaine pandémie? Point d'interrogation. Plus aucun parlementaire ne pourra contrôler les contrats et autres éléments techniques liés à de telles opérations. L'être humain doit devenir un simple outil au service du Dieu de l'art. La pandémie COVID-19 a été un excellent moyen pour entreprendre la mise en œuvre d'une première phase d'emprise psychologique sur les populations. Les conditions imposées par les politiques se substituant au corps médical et notamment aux médecins de ville ont sapé la confiance des citoyens et nombre d'entre eux ont cédé à l'apport inculqué par des discours anxiogènes. Des ordres et des contre-ordres, des consignes sans fondement scientifique mais présentées comme impératif pour leur statut. La puissance, le pouvoir d'une autorité sur certains esprits a conduit nombre de Français à accepter de devenir les cobayes de Big Pharma sans se poser de questions quant au lendemain. Bon, on le sait, l'Ukraine a été implosée, mais qu'en est-il de la riposte de l'OTAN? En réponse à la reconnaissance par la Russie des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, RPD et RPL, l'OTAN se prépare à s'emparer de la Transnistrie. Près de 500 000 civils dans la République moldave, pris Denestrovienne, PMR et environ 3 000 casques bleus russes pourraient être attaqués par l'OTAN. À l'heure actuelle, on sait que d'importantes forces de l'OTAN sont concentrées près des frontières de la République non reconnue. Les tensions ont augmenté après que la Russie a reconnu la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. L'Europe craint que la situation dans la République moldave pris Denestrovienne ne devienne incontrôlable. À cet égard, la conquête de la Transnistrie est considérée comme une priorité, d'autant plus que la Russie n'y a pas accès rapidement. Depuis le début de cette année, la situation près des frontières de la République moldave, pris Denestrovienne, non reconnue, s'est sérieusement aggravée. Des tentatives ont été faites pour organiser un blocus de la PMR et relativement récemment, les journalistes du projet VAR Gonzo ont déjà rendu compte de la concentration des troupes de l'OTAN près des frontières de la PMR. Les réseaux sociaux ont noté le mouvement non seulement du matériel de l'armée moldave, mais aussi de l'artillerie à canon, ce qui est déjà beaucoup plus alarmant. Cela s'est produit juste à côté de la frontière de la Transnistrie et de la zone de sécurité définie par des accords internationaux où de telles armes ne devraient en principe pas apparaître. Le matériel a également été déplacé dans la zone du terrain d'entraînement militaire de Bilbaoka, où des spécialistes de l'OTAN ont déjà été repérés plus d'une fois. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, les forces spéciales de l'OTAN ont pénétré dans la zone de sécurité près de Dubesari à des fins de reconnaissance et ont même tenté d'enlever un garde-frontière.
Sa Majesté arnaque la France. En 2020, en conclusion d'une mission flash de la Commission de la Défense à l'Assemblée Générale, les députés Jean-Jacques Ferrara et Jean-Pierre Cubertafont estimèrent qu'il était alors temps d'acter que la France ne disposera pas d'une telle capacité de manière patrimoniale. L'acquisition de tels appareils ne semble pas soutenable en raison du coût d'acquisition et de mise en œuvre et d'entretien, ont-ils ajouté. Cela étant, la messe n'est pas encore dite. Ainsi, dans leur très copieux rapport sur la préparation des forces françaises à la haute intensité, les députés Patricia Mirallès et Jean-Louis Thierion affirment avoir eu vent que les Britanniques pourraient louer ou vendre leur flotte d'hélicoptères de transport Chinook à la France. Malheureusement, les deux rapporteurs n'ont pas donné plus de précisions sur un tel projet. Reste que la Royal Air France se séparera d'ici 3 à 4 ans d'une petite partie de ses CH-47 Chinook, en particulier les plus anciens. En effet, en mai 2021, Londres a confirmé la commande de 14 H-47, une nouvelle variante de l'hélicoptère proposée par Boeing, pour environ 1,4 milliard de livres sterling. Éprouvé à maintes reprises lors d'opérations au Royaume-Uni et à l'étranger au cours des 40 dernières années, le Chinook continue d'être une capacité essentielle pour la défense britannique. Cette annonce assure les opérations des Chinooks pour les décennies à venir et est représentative de notre engagement à moderniser les capacités tout en maintenant l'interopérabilité avec des alliés clés. Reste à voir s'il serait pertinent ou pas de reprendre les anciens CH-47 Chinook britanniques, avec tout ce que cela implique en matière de maintien en conditions opérationnelles, sachant que ces appareils ont accumulé les heures de vol et qu'il faudra à un moment traiter leur obsolescence. En outre, il faudra former les équipages et les techniciens. Bref, il faudra veiller à ce que l'utilisation soit soutenable. Lors de l'examen du rapport en commission, M. Thierriot a demandé si l'on devait s'y intéresser. En tout cas, a-t-il dit, c'est une question à se poser.